Le point suivant, contrat de ville, versement de subventions aux associations. Madame Saadi.
Des associations agissent au quotidien dans les quartiers populaires avec l'aide de la ville et de nombreux autres partenaires. Un contrat de ville, c'est une dynamique pour en faire plus là où il y en a le moins, où on a le plus besoin, pour réparer les inégalités et favoriser une place pour chacun dans la cité. Il peut s'agir d'aider à apprendre le français, à trouver un emploi, une formation, à se soigner, à ouvrir ses droits, à mener des démarches administratives. Excusez-moi. Voilà, pardon. De promouvoir la citoyenneté, la participation des habitants, la parentalité, les initiatives, l'image des quartiers, la mobilité des habitants, de développer des activités pour les adolescents et pour les enfants, de créer du lien par la médiation, l'animation. Parce que les difficultés que rencontrent certains habitants doivent être levées pour construire leur parcours d'insertion, le contrat de ville maintient son soutien à Metz Pôle Service, le plus gros chantier d'insertion de Moselle. Sur ce dossier, nous pouvons constater l'effet de levier engendré par la mobilisation du droit commun. 343 000 euros de subventions de la ville, 50% de cette programmation permettent la mobilisation de 2,3 millions d'aides d'État pour les postes. Ce sont 170 personnes remises au travail avec plus de 60% des bénéficiaires qui ont une solution et ou formation qualifiante à la sortie du chantier. 9 médiateurs à temps plein dans les QPV, les quartiers politiques de la ville. Le bilan vous a été déposé dans les salles de groupe. J'avais été attentif l'année dernière dans notre débat où vous vouliez les bilans et c'est tout à fait normal. Nous allons encore vous déposer le bilan de Starter vers l'emploi. Ce sont 123 demandeurs d'emploi reçus. Déjà, plus de 52% étaient remis sur les rails de l'emploi. Nous pouvons constater que 3 rendez-vous individuels d'une heure ont pu lever des barrières et lever la désespérance de certains. De plus, nous travaillons également sur le droit commun de la métropole et de la ville par le biais de Metz Métropole Développement sur l'attractivité économique de nos quartiers. Les initiatives soutenues dans le contrat de ville s'inscrivent dans une logique de développement dans laquelle le lien social, l'urbain, l'économique s'articulent. En réduisant les écarts de pauvreté, d'accès à l'emploi, de qualité urbaine, le contrat de ville vise à raccrocher les quartiers et les habitants au reste de la ville et de l'agglomération. La programmation du contrat de ville annuel en deux temps, février-avril, en est une composante. Elle se fonde sur des propositions d'associations aptes à compléter l'action des pouvoirs publics et des acteurs économiques. Elles sont complémentaires avec des programmes habituellement déclinés sur l'ensemble des territoires. Ces initiatives sont coordonnées régulièrement lors d'échanges entre associations et services publics dans chacun des quartiers. Les initiatives sont financées dans le cadre d'un appel d'offres lancé par Metz Métropole à qui la loi a confié le pilotage du contrat de ville. Après concertation, leur financement est partagé avec des partenaires dont l'État, les bailleurs sociaux et la CAF. Un contrat de ville, pour qu'il soit autre chose qu'un simple bout de papier, se doit d'être animé. L'équipe du pôle politique de la ville veille à mener régulièrement dans chaque quartier politique de la ville des réunions de travail multi-acteurs sur des thématiques variées. Il s'agit aussi de mieux coordonner les actions et surtout de réfléchir collectivement aux défis posés par l'enjeu de l'égalité des territoires et de leurs habitants. Pour cette première programmation, 51 dossiers représentent une somme globale de 686 157 euros. La motion est en conséquence.
Merci, madame. Alors, Madame Groll est inscrite pour 4 minutes, Madame Singer pour 2 minutes, Madame Zimmermann, Monsieur Vanling, Madame Collin-Sallet pour 8 minutes et Madame Kosik pour 2 minutes. Madame Groll.
Oui, Monsieur le maire, pour cette première programmation 2017 du contrat de ville, 686 000 euros de subventions sont accordés, qui seront abondés par le soutien de l'État et des autres cofinanceurs. C'est ainsi que, par exemple, Metz Pôle Service, qui fait un important travail d'insertion économique reçoit 343 000 euros qui sont démultipliés par les aides à l'emploi. C'est donc une action indispensable, je disais, pour permettre à ceux qui en sont le plus éloignés de sortir du chômage et des aides sociales pour accéder à l'autonomie. Certaines cibles de cette nouvelle programmation sont intéressantes, comme les Repair Café qui permettent de mixer les générations, c'est vrai, ou les séjours sportifs ou nature, environnement construit avec des adolescents qui sont très bénéfiques, notamment pour rompre avec leur environnement qui peut être néfaste. Vous savez, ces drogues que certains veulent dépénaliser, qui sont faussement dites douces, et ça n'est pas moi qui le dis. Je cite le rapport que certains jeunes entretiennent avec les drogues, notamment le cannabis, constitue une difficulté supplémentaire. Ce sont les spécialistes, les acteurs qui le disent. Un objectif à intensifier, ce sont les actions à destination des femmes, dont la situation est alarmante dans les fiches projets qui sont fournies. Je cite, elles vivent confinées, se sentent dévalorisées, isolement social et culturel des filles, pour qui il est difficile d'accéder aux dispositifs communs. C'est une réalité sur laquelle il faut agir partout. En se penchant sur le détail des actions subventionnées par le contrat de ville, on voit le travail réalisé, mais on voit aussi les limites de cette politique dite de la ville, qui est l'alpha et l'oméga du vivre ensemble qui vous est cher. Et que constate-t-on ? Des difficultés croissantes, alors que les budgets alloués, eux, sont toujours très importants, voire plus importants. Cela devrait pourtant inciter à remettre en cause les politiques menées au plan national. Comment ne pas être préoccupé quand même les acteurs de terrain disent que l'intégration est bloquée par le trop-plein de populations à intégrer et qu'ils formulent le constat d'un repli communautariste. Pour les citer, l'action est de plus en plus difficile au vu de la diversité des arrivants et du nombre en forte progression à Bellecroix. Nous observons depuis quelque temps des comportements discriminatoires. Les nouveaux mouvements migratoires suscitent une réticence auprès des familles du territoire. Cela, c'est à Metz-Nord, alors qu'on sait que là même, les familles sont souvent d'origine étrangère. Et des problèmes se posent pourtant. Face à ces replis identitaires, plusieurs fois mentionnés, l'objectif 2 de la programmation, mise en valeur de la diversité, ne va pas dans le bon sens. Sans vouloir pour autant nier les racines propres à chaque individu, bien sûr, la priorité de l'action publique devrait être la nécessité de l'intégration à notre société qu'il s'agirait de mettre en valeur. C'est ainsi que l'intégration s'est faite avec de très bons résultats pour les générations précédentes qui ne se disent pas immigrés de la deuxième ou troisième génération. Chacun a ses origines, évidemment, mais tous se disent simplement citoyens français. Il y a un risque en valorisant donc cet objectif, un risque évident de renvoyer chacun à ses origines, voire d'instrumentalisation. C'est si vrai que sur cet objectif, un porteur de projet revendique de tenir un discours qualifié, je le cite, de quasi-militant, parce que, dit-il, ses actions peuvent être balayées d'un jour à l'autre par l'actualité et le flux changeant de l'opinion. C'est tout de même un peu fort pour donner 25 000 euros de la ville sur un budget de plus de 100 000 euros pour une action. Comment peut-on justifier ce genre de propos ? Je terminerai par deux questions. Sur la patrotte Metz-Nord, quartier que les associations intervenantes décrivent comme très dévalorisé, espace public déserté, insécurité, mixité ethnique et culturelle importante, il serait utile, monsieur le maire, que vous nous informiez sur le chantier de l'Agora. Car heureusement que les actions de préfiguration, elles, sont bien réelles. Deuxième question, certains projets du quartier Sablon Sud, avec le centre social Pioche, étaient menés avec les services d'interservices migrants Est. J'ai quasiment fini. Que va-t-il advenir avec la mise en liquidation de l'association ISM Est, laissant ses salariés sur le carreau suite à une condamnation au prud'homme, un partenaire de la ville dont les pratiques s'avèrent bien peu conformes avec leur idéal humaniste. Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Singer.
Alors, monsieur le maire, j'aimerais vous poser une question. Récemment, Samia Ghali, sénatrice socialiste et maire du 8e secteur dans les quartiers nord de Marseille, a réagi aux violences urbaines qui ont secoué les banlieues et a déclaré qu'elle était, un, pour l'arrêt total de la politique de la ville, deux, que celle-ci n'avait servi qu'à faire plaisir à des promoteurs et des constructeurs, mais n'avait rien changé à la vie des gens, trois, qu'on avait créé des zones franches, mais que cela n'avait pas favorisé l'emploi des habitants, et quatre, qu'on n'avait jamais pensé à former des jeunes pour répondre aux besoins. Alors, monsieur le maire, êtes-vous d'accord avec les propos de cet élu de votre parti ? Êtes-vous d'accord avec elle quand elle dit que vous achetez la paix sociale ? Vous savez, monsieur le maire, le mal est profond dans les quartiers. Et quand les habitants de notre ville entendent parler, par exemple, depuis des années de l'agora, et qu'ils ne le voient pas venir, ce retard contribue à créer ce sentiment qu'on n'en fait finalement pas autant qu'on le dit pour eux. Monsieur le maire, visiblement, la politique de la ville, malgré tous les milliards dépensés en France et les millions d'euros que nous avons déjà dépensés et investis dans nos quartiers, ne marche pas. Mais, bien évidemment, j'aimerais votre avis. Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Collin-Sterlet.
Oui, monsieur le maire, très rapidement, on est déjà intervenu sur ce sujet-là et de manière assez récurrente. On a un problème quand même aujourd'hui de visibilité de ce que l'on fait, de ce que fait Metz Métropole, de ce que fait la ville, mais au-delà de ça, aussi un problème de visibilité sur l'évaluation qui est faite des différents dispositifs. C'est vrai que moi, j'ai lu avec intérêt le rapport de la Cour des comptes sur la politique de la ville et bon, il est assez sévère justement sur le manque d'évaluation et sur le fait que souvent les crédits qui sont dévolus à la politique de la ville, et je le dis comme la Cour de comptes le dit, ces crédits ne vont pas forcément au public concerné, au public dit les quartiers prioritaires. Alors, il va bien y avoir un moment, il va falloir qu'on s'arrête sur ces différents dispositifs parce qu'on revote chaque année les mêmes choses, on relance les mêmes dispositifs sur les mêmes quartiers, etc., sans vraiment faire d'évaluation. Et si la Cour des comptes le dit, ben, je pense qu'on peut quand même peut-être réfléchir à la manière de procéder. Je ne sais pas si ça vous ennuie peut-être ce que je raconte, mais c'est important quand même, parce que vous êtes un petit peu concernés, me semble-t-il. Donc, non, mais je pense que c'est important aussi de réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on met en place, aux publics qui sont visés et à l'évaluation qui est faite. Ça ne sert à rien d'injecter des sommes considérables si on n'est pas capable d'évaluer nos dispositifs. Ça fait quand même longtemps qu'on le dit. Madame Zimmermann le dit aussi assez régulièrement, il nous faut une évaluation de ces dispositifs. C'est ce que préconise la Cour des comptes et ce qui, aujourd'hui, n'est pas fait, y compris chez nous. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Wendling.
Oui, monsieur le maire, effectivement, le problème de l'évaluation est compliqué, et encore plus pour nous, conseillers municipaux et dans l'opposition, parce que c'est évidemment, on doit entre guillemets faire confiance au service de la ville et à l'élu, à l'adjointe en charge du dossier, qui choisit finalement les associations qu'elle aide. Alors évidemment, sur le principe, moi j'ai pas de souci sur la politique de la ville. Simplement, il est évident que on peut discuter des choix de telle ou telle association et qu'effectivement c'est compliqué l'évaluation. Il y a aussi un problème sur lequel je voulais revenir plus précisément qui fait un peu écho au début de ce conseil municipal, c'est la répartition entre la ville de Metz et Metz Métropole. On a des dossiers qui passent en commission à Metz Métropole et en commission à la ville qui sont étudiés par les deux services. Les choses ne sont, la répartition entre les deux n'est pas claire. On avait donné au départ trois axes de subventionnement au sein des associations, trois types de projets. De mémoire, c'était tout ce qui tourne autour de l'emploi, autour de l'éducation et autour de l'intégration. Il serait beaucoup plus simple que Metz Métropole prenne en charge un ou deux de ses piliers et la ville un ou deux des autres. C'est très difficile de faire une répartition entre ce qui est communautaire et ce qui est uniquement ville de Metz. Parce que, d'abord, il faut savoir que sur la Metz Métropole, il y a très peu de villes qui sont concernées par la politique de la ville et que par conséquent, les différents dispositifs, de toute façon, interviennent essentiellement sur les deux villes, soit Metz et Voipy, qui sont les deux villes les principalement touchées par la politique de la ville. Donc, il faut qu'on réfléchisse. À Metz Métropole, en commission, et Saïma Saadi y a participé, on a déjà soulevé le problème. C'est une vraie réflexion qu'il faut avoir, parce que là, il y a une source d'économie, il y a une source d'évaluation importante à trouver, dans le fait qu'effectivement, c'est l'éternel problème que la Cour des comptes relevait, effectivement, de savoir si cet argent allait vers les publics qui en avaient besoin. Je vous relancerai une vieille proposition, monsieur le maire, que vous avez déjà entendue il y a très longtemps, qu'il faut évidemment donner uniquement les subventions aux associations qui ont leurs sièges sociaux dans ces quartiers. Merci.
Merci, madame Zimmermann.
Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, effectivement, sur ce point et ce rapport, Je reprends, je dirais, les éléments majeurs lorsque on décide de faire des contrats de ville. Vous avez le développement de l'activité économique et de l'emploi, vous avez la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain. Il est clair que sur le développement économique, Madame Saadi nous a expliqué qu'il y avait des évolutions au niveau des jeunes qui reprenaient un emploi, également comment on travaillait avec eux, comment on faisait cet accompagnement social. Je dirais, si vous voulez, que bon, moi j'ai quand même un souci majeur aujourd'hui par rapport à ces contrats de ville. C'est, comme l'a très bien souligné Nathalie Collin-Osterlé, un vrai bilan. Alors, un vrai bilan, certes, sur les associations, elles travaillent, heureusement d'ailleurs, mais un vrai bilan par rapport à ce qui se passait avant 2008, 2008, 2014 et 2014 aujourd'hui. Parce que là, on réengage un nouveau système. Et 2015-2020. Donc, ça veut dire que, quelque part, si on continue à donner des subventions, il faut qu'il y ait, un résultat dans ces quartiers. Et au niveau, notamment, du cadre de vie et du renouvellement urbain, on met les contrats de ville, programme les créations d'équipements, la mobilité dans les parcs résidentiels et l'installation de nouvelles activités dans le quartier. Il détaille les initiatives prises pour l'amélioration des relations entre la police et la population. J'aimerais bien savoir quelles sont les actions qui sont menées dans tous ces quartiers entre la police et la population pour qu'il y ait, en quelque sorte, une coopération qui évite... Très souvent, lorsque on regarde dans ces quartiers, et vous les voyez, c'est pas compliqué. À part Borny, je sais que là-dessus, que ce soit Nathalie comme Yves Wendling, je sais qu'ils ont des yeux très bienveillants sur ces quartiers. Tous les autres quartiers se trouvent pratiquement dans ma circonscription. Donc moi, je souhaiterais vraiment que l'on voit comment on travaille au niveau de la police et de la population dans ces quartiers pour essayer de faire disparaître ce sentiment d'insécurité. Et lorsque je vois notamment le Sablon qui est concerné, on a eu la disparition du commissariat. Alors, c'est vrai, il fallait complètement le restructurer. Et effectivement, financièrement, c'était très lourd au niveau de la restructuration. Simplement, là, moi, j'aurais souhaité quand même que, quand on me répond qu'il vaut mieux tout concentrer au commissariat de police, c'est sympathique, sauf que lorsqu'il y a une présence... Alors, oui, elle n'était pas là la nuit, c'est vrai, mais lorsqu'il y a une présence, il y a quand même un élément de sécurité, même au moment des périodes où il peut y avoir des difficultés au niveau de la sécurité, notamment au Sablon, parce que c'est un des quartiers qui, au niveau de la sécurité, n'est pas forcément un quartier très calme. Et je voudrais revenir également, et très rapidement, sur la commission qui avait été mise en place en 2011. Alors, c'était une commission sur la vidéosurveillance. Et sur cette commission, on avait dressé un rapport et on avait bien mis en évidence le fait qu'il y avait, sans aucun doute, une nécessité aujourd'hui de continuer à améliorer la vidéosurveillance sur l'ensemble de la ville. Donc j'aimerais bien, dans ce domaine-là, qu'on voit comment, dans ces quartiers notamment, il y a un travail de vidéosurveillance qui se fait. Je sais que il y a des caméras. Comment, là aussi, il y a une coopération avec la police par rapport à la sécurité? Parce que, monsieur le maire, ce qui s'est passé, alors c'est au centre-ville, c'est pas ma circonscription, je reconnais, au centre-ville, il n'y a pas longtemps, c'est quand même incompréhensible quand on dit que les caméras étaient en panne, elles étaient... oui, mais enfin, c'est sympathique, sauf que... c'est ce qu'on nous dit.
On va vous répondre.
Bon, mais j'aimerais bien, si vous voulez, que... On a eu 2011 la mission, ensuite on a eu en 2013 de nouveau un travail qui a été effectué lorsque vous avez lancé le Métis. Je souhaiterais qu'il y ait un suivi peut-être régulier au niveau de cette mission par rapport à la sécurité dans l'ensemble des quartiers de la ville et notamment les quartiers qui sont concernés par les contrats et voir comment... Au niveau de la population et de la police, il y a effectivement un travail qui est fait comme ce qui est demandé dans les contrats de ville. Merci.
Merci. Madame Kosik.
Oui, merci, monsieur le maire. Juste sur la question de la sécurité, madame Zimmermann, il y avait un très bel outil qui avait été créé par le gouvernement Jospin qui s'appelait la police de proximité.
Merci, c'est vrai.
Et qui a été supprimée.
Vous avez raison.
Qui a été supprimée par un ministre de l'Intérieur disant que les policiers n'étaient pas là pour jouer au foot.
Vous savez qu'on va le remettre. Hein.
Voilà.
Donc ça veut dire qu'on a fait une erreur.
Donc voilà, ça c'est quand même une erreur politique majeure. Alors, moi je voulais apporter un témoignage d'évaluation et d'ailleurs de réussite des effets de cette belle politique publique qu'est la politique de la ville. Alors bien sûr, il y a le contrat de ville. Qui est finalement la feuille de route des acteurs qui s'investissent sur ces quartiers et qui est finalement le pendant de ce qu'on appelle l'aménagement urbain, finalement tout ce qui s'est fait en termes d'intervention sur le bâti. Quand je rencontre des locataires, en général, je leur donne un élément d'information, un indicateur qui qualifie très souvent les conditions de vie des immeubles dans lesquels ils vivent, c'est le taux de vacances. Hein, le taux de vacances, effectivement, on sait bien que les gens qui sont bien restent dans leur logement et que finalement, quand des familles partent, si c'est un quartier qui vit bien ou qui est considéré comme vivant bien, le logement ne reste pas vide très longtemps. Eh bien, moi, ce que j'observe, c'est l'évolution du taux de vacances sur le quartier de Borny. Hein, simplement deux chiffres, il était de 5% en 2013, il est aujourd'hui de 2,5%. Alors bien sûr, il y a le phénomène de l'impact des démolitions, des logements de mauvaise facture sur le fonds de Borny, mais bien sûr pas que, parce que sinon, si c'était que ça, ça finirait par se dégrader à nouveau. C'est lié à la requalification urbaine, c'est quand même un volet important de ce qu'on appelle la politique de la ville, à la résidentialisation et bien sûr aux moyens sociaux qui sont financés dans ce cadre-là et qui viennent, dans l'accompagnement qui est fait des habitants, et bien donner des meilleures conditions de vie et finalement des envies pour les habitants de rester dans ce quartier et d'ailleurs d'y revenir pour certains.
Merci. Alors je vais demander à Monsieur Koenig, parce qu'il y a eu disons une question qui n'en est pas une, parce que dans la politique de la ville, on peut parler de tout. Mais on va parler de sécurité. Donc je demande à M. Koenig de nous faire le point et de répondre en particulier à Mme Zimmermann qui a posé pas mal de questions sur ce thème. Monsieur Koenig, vous avez la parole s'agissant de la sécurité.
Oui, bien, écoutez, je vais essayer d'être bref mais précis. Effectivement, il y a plusieurs problématiques qui se posent en matière d'organisation de la sécurité sur la ville et beaucoup d'acteurs, que ce soit les services de justice qui sont présents dans un quartier comme Borny ou la police nationale avec des bureaux de police dans... Attendez, s'il vous plaît, vous me laissez parler, je vous ai laissé parler. Des présences de bureaux de police qui sont préservées dans les zones sensibles. Alors... Il y a un travail de fond qui est fait avec des structures qui existent, comme les GLTD, les groupements locaux de traitement de la délinquance, qui sont présidés par le procureur. Donc nous en avons un à Borny, comme il en existe aussi un sur la ville de Voipy, donc avec un travail dans lequel des associations qui sont présentes sur le terrain sont là et nous servent aussi de relais d'ambiance. Et puis, la ville a mis en place ce qu'on appelle les cellules de veille opérationnelles qui existent dans l'ensemble des quartiers, y compris dans le quartier du Sablon, où là, pareil, nous échangeons avec les représentants des établissements scolaires, que ce soit les collèges, ou les bailleurs sociaux quand ils sont présents, ou encore ces associations. Je pense particulièrement au CMSEA qui fait un travail énorme dans les collèges, hein, et qui dispose de financement public, ou sur des actions spécifiques avec l'APSIS que nous allons encore financer ce soir. Je pense particulièrement aux sorties de concerts de la boîte à musique. Donc là, police municipale, police nationale et prévention sont présents justement pour faciliter l'ambiance à la sortie de ces concerts, y compris dans les transports en commun, puisque pareil, nous travaillons avec les transporteurs systématiquement dès que nous avons des signalements. Donc il y a ce travail de proximité qui est fait. On essaye d'être un maximum en contact avec les acteurs. Alors c'est vrai que la suppression de la police de proximité qui était faite par la police nationale à une époque a créé une absence aujourd'hui sur le territoire. Et la volonté municipale en 2010, lors de la suppression de cette police de proximité, a été de réorganiser les unités de police municipale par quartier, en unité de quartier. Donc nous avons aujourd'hui maintenant des référents pour chaque unité de police municipale qui sont les interlocuteurs des acteurs économiques ou des acteurs associatifs ou des acteurs religieux, par exemple, aussi sur le terrain. Donc un maillage qui est essentiel. Et qui vient bien sûr se compléter avec un réseau de vidéosurveillance pour les aspects plus sécuritaires. Donc, madame, vous avez évoqué la commission que vous avez présidée, madame, en commission d'information, que vous avez présidée en 2010. Et à l'issue de cette commission, vous aviez constaté le bon fonctionnement de 41 caméras, la mise en place du déport de l'image pour les policiers nationaux dans le cadre de la parfaite complémentarité entre les deux polices et la qualité des améliorations techniques apportées pour le visionnage par la création d'un nouveau centre de supervision urbaine dans les nouveaux locaux de la police municipale à Chambière. Alors, ce centre de supervision urbaine, nous continuons à le moderniser puisque, comme je l'avais évoqué déjà ici au conseil municipal, nous allons prochainement l'agrandir en étendant sa capacité de stockage d'images puisque je parlais de 41 caméras en 2010 lors des conclusions que vous avez présentées lors de cette commission. Aujourd'hui, nous avons largement dépassé la centaine de caméras puisque nous sommes aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, à un dispositif de 102 caméras sur la ville. Les 5 dernières caméras viennent d'être activées, ont été présentées lors du dernier CLSPD, puisque nous avons, vous souhaitez une commission de suivi, donc le conseil local de prévention de la délinquance s'est réuni au mois de décembre dernier sous la présidence de monsieur le maire, de monsieur le préfet, de monsieur le procureur. On a pu faire un état des lieux sur les différentes politiques de sécurité menées, que ce soit le contrôle routier, le développement de la vidéosurveillance, la question aussi de la protection des agents, qui est aujourd'hui une question essentielle, les questions de radicalisation, la question de la lutte, le travail qui est fait par les associations et les services de l'État sur la lutte des violences faites aux femmes. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, madame. Et donc nous avons aussi, ça a été l'occasion par laquelle nous avons pu présenter donc la mise en œuvre des 5 nouvelles caméras vidéo sur la ville qui viennent d'être activées début décembre et qui nous permettent de répondre à des attentes de la population en concertation stratégique avec la police nationale, puisque vous avez déjà évoqué ici tous les uns les autres la question de la gestion et des problèmes d'incivilité ou de délinquance aux abords des copropriétés privé de Borny. Donc désormais, et je parle sous le contrôle de Patrice Ezio qui est venu voir le champ de vision de ces nouvelles caméras il y a 2 jours. Donc on a désormais effectivement une vision en vidéosurveillance de l'ensemble des copropriétés privées ainsi que de la place du marché qui complète donc le maillage de caméras qu'on avait mis en place déjà autour de la boîte à musique. Et puis, comme je le disais, nous entendons aussi la population puisque des caméras commencent à se déployer dans le quartier Outre-Seil avec une première installée à l'angle rue de Turmel, rue des Allemands, qui nous permet effectivement non seulement de chasser les incivilités avec mon collègue Jean-Louis Lecoq autour des points d'apport volontaires, mais aussi de surveiller les sorties des établissements qui posent des problèmes dans ce quartier. Donc le parc sera encore bien sûr étendu puisque j'ai demandé au service de poursuivre l'étude autour du développement de caméras du quartier Outre-Seille, de manière à ce que le quartier Outre-Seille soit traité comme le reste du centre-ville, puisque nous exprimons avec Monsieur le maire le souhait qu'Outre-Seille appartienne totalement au centre-ville. Donc il n'y a pas de raison que ce quartier ne voit pas un développement de la vidéosurveillance. Et puis, prochainement aussi, une caméra place d'armes, puisque c'est une des dernières places qui accueille des marchés de Noël qui ne dispose pas encore de vidéosurveillance. Donc le dossier avance plutôt bien. Vous savez aussi qu'en ce moment, les relations sont tendues entre les polices dans certains quartiers. Même si ici à Metz, nous échappons effectivement à certaines émeutes, voire certaines manifestations, je vous avouerai quand même que dans certains cas, nous connaissons quand même quelques noms d'oiseaux. Hein, les policiers m'ont évoqué le sujet. Et j'ai proposé donc à Monsieur le maire d'expérimenter cette année la caméra piéton, puisque nous parlons de vidéo. Cette caméra piéton qui est présentée de plus en plus et qui est autorisée désormais pour la police municipale permettra des échanges entre police et population beaucoup plus apaisés, puisque c'est les retours qu'on a de l'usage de cette caméra dans les polices qui l'ont mise en place. Ensuite, quelques mots encore, parce qu'effectivement, bon, on a quand même un déficit de présence de police nationale, malheureusement, depuis la mise en place de la RGPP, ce qui est une réalité, ce qui a été quand même rappelé par les différents rapporteurs au Sénat qui ont fait un rapport sur... Non, madame, non, si vous voulez, madame, vous me laissez finir, vous pouvez parler. Les effets aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là. Écoutez, ils sont là aujourd'hui. Je vous cite le compte-rendu officiel. Je vous cite, si vous voulez, le rapport de vos collègues parlementaires sénateurs qui ont rappelé effectivement une érosion des dispositifs jusqu'en 2010. Heureusement, la gauche est passée par là entre-temps. Après ce Securigate national... Et aujourd'hui, depuis 2010, les effectifs de la direction centrale de la sécurité publique augmentent. Non, depuis 500 postes supplémentaires ont été...
Mais il faut écouter, même si c'est dur à entendre.
Oui,
laissez-le finir,
entendre.
S'il vous plaît.
C'est dur à entendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est 9000 postes après la suppression des 10000 postes par le gouvernement Sarkozy-Fillon, et bien sûr, en plus des militaires, puisque nous n'avons même plus de militaires, nous sommes, je ne suis pas pour Macron, madame, je suis le représentant en tant qu'adjoint au maire de la... Ça vous fait mal, ça vous fait très mal, c'est ça votre problème. Aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre sur les marchés de Noël des réservistes de l'armée parce que vous avez saboté, vous de droite qui êtes pour les pouvoirs régaliens, la sécurité, la justice, vous avez tout détruit. Vous avez tout détruit. Nous avons tout reconstruit. 9000 postes à l'heure des prémices de la radicalisation avec l'affaire Mera, vous supprimiez des postes de police. C'est un scandale d'État. C'est vous qui l'avez supprimé, la police de proximité, madame. Avouez vos fautes. Nous avons recréé des postes de police. Consultez le rapport de la Cour des comptes qui dit que 9000 postes de police ont été construits depuis François Hollande. Vive la gauche.
Bravo. Eh bien, écoutez, il y en a qui commençaient à s'endormir grâce à Monsieur Koenig qui a eu l'imprudence de rappeler les disparitions de postes de police sous la droite
et de militaires.
Écoutez, on va excuser Monsieur Koenig de dire les faits. On va excuser. Monsieur Koenig, si vous le voulez, vous pouvez rappeler les chiffres de la disparition du nombre de policiers sous la droite. Voilà, alors, on est pratiquement en train d'avoir réussi à les remettre, madame. Mais si, madame, je m'informe de ça. Madame, je vais vous dire deux mots. Madame, laissez-moi dire deux mots, madame. Je m'informe régulièrement auprès du DDSP. du nombre de policiers qui sont en formation, qui peuvent arriver ici, etc. Et effectivement, les dégâts ont été considérables, vous le reconnaissez. Bon, et donc, on est en train d'essayer de rattraper les morceaux, et maintenant, il n'y en a pas un. Et madame, madame, c'est compliqué. C'est compliqué, madame. Allez, madame, vous avez la parole, allez-y.
Merci,
expliquez-nous comment ça fait que vous avez supprimé 10 000 policiers, on est intéressés.
Monsieur le maire, écoutez, je vais vous dire une chose, j'ai entendu cette rengaine pendant 5 ans dans l'hémicycle. Alors, je vais vous dire, sincèrement, quand on est pendant 5 ans au pouvoir, il ne faut pas 5 ans pour former des policiers. Bon, alors, on arrête de dire on a enlevé la police de proximité. En 2012, il fallait la rétablir directement. Écoutez, vous croyez vraiment que si vous aviez fait des éclats, on aurait aujourd'hui les problèmes qu'on a en banlieue ? Non. Alors, stop ! Je crois qu'il faut... Stop ! Mais stop ! Je vais vous dire une chose. Il faut être très humbles les uns et les autres. Et je crois sincèrement qu'on sera beaucoup plus intelligents pour la suite. Et on ne laissera pas la place à des démagos. OK ? Merci.
Alors, je vais intervenir sur ce point. Je vais répondre calmement à Madame Zimmermann. Madame Zimmermann, notre responsabilité ici, elle est municipale. Et cette responsabilité, je l'exerce pleinement. Madame, je l'exerce pleinement et je l'exerce en liaison avec le procureur de la République, je l'exerce en liaison avec le directeur départemental des polices urbaines et je l'exerce avec tous les responsables sociaux. J'ai encore téléphoné hier, par exemple, au directeur des TAM pour lui demander de mettre en place une convention permettant à nos policiers municipaux de travailler dans les transports en commun de l'agglomération. J'ai laissé un message à M. Grosdidier pour lui suggérer d'en faire autant pour la partie qui prolonge dans le Métis, etc. Partout, nous travaillons. Ici, dès que je suis arrivé, j'ai créé un véritable commissariat de police municipale. Et il n'y en avait pas. Ils étaient dans des trous à rats sous le marché couvert. C'était absolument indigne. C'était indigne. Il n'y avait pas de fenêtres, etc. Les femmes ne pouvaient pas se déshabiller, c'était horrible. Ils m'ont montré ça, j'étais épouvanté. Et on a 90 policiers municipaux. On a une proportion ici de policiers par rapport à la population qui était un des plus élevés de France dans les grandes villes. Voilà. Et par-dessus le marché, j'ai un adjoint qui est parfaitement performant dans ce domaine-là, qui est reconnu comme tel. Et nous avons un travail commun, une centaine d'opérations chaque année avec la police nationale, alors que j'ai succédé à une période où ils se mettaient des PV les uns les autres. Écoutez, voilà où on en est. Je fais le mieux possible. Et par ailleurs, par rapport aux effectifs nationaux, on m'explique qu'il y a effectivement des problèmes bien plus importants ailleurs. La réponse qu'on me donne, elle est à chaque fois, mais monsieur le maire, c'est pas parce que vous avez soit un article de journal qui met en avant un fait, il y a des faits qui sont indéniables, soit des gens qui prennent la parole au conseil municipal, que c'est pour autant ici... la catastrophe. Et donc, effectivement, dans les effectifs qui ont été créés, il y a eu des endroits qui ont été privilégiés en France. Je le reconnais. Et quelque part, je me console parce que c'est en me comparant qu'on me dit « Monsieur, vous n'êtes pas prioritaire par rapport aux crises qu'on peut avoir ». Ben oui, mais c'est comme c'est ce qu'on me dit. Hein, par rapport à certains endroits, vous savez, il y a des endroits, effectivement, où la police va avec difficulté et il va en groupe et organisé. Et vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Je dis simplement, c'est que quand on abandonne le terrain, pour ça, il faut revenir. Et nous, on n'a pas de problème de présence nulle part. Personnellement, je vais partout et la police, de la même façon. Donc, on est... Alors, il y a eu le débat sur les caméras. On en est à... On est à 104. Alors, on est à 102 caméras. Attendez, madame. C'est moi qui parle pour l'instant. On est à 102 caméras. On a eu un problème d'une caméra en panne. On est en train de la remplacer et on le fait le mieux possible. Partout où on peut, si vous voulez, c'est pas une fonction régalienne de la ville. On fait le maximum dans le cadre de ce qui nous est confié comme possibilité. Et la police a été armée parce que c'était sa demande. Et elle a été équipée et bien équipée, croyez-moi, y compris pour des périodes tendues, parce qu'on a des équipements qui sont des équipements d'émeute, en fait, hein, pour un certain nombre de policiers. Tout ça, c'est pour dire que nous prenons les choses très au sérieux. Je regrette un peu que le débat sur la politique de la ville
termine uniquement sur la sécurité. Et je vais repasser la parole à Mme Saadi pour peut-être faire un bilan global, parce que la politique de la ville, c'est compliqué aussi. Et j'ai bien conscience qu'il y a souvent de l'argent. Vous savez, j'ai assisté au démarrage, par exemple, de Metz Pôle Service. C'était le docteur Jacquat. Hein, et je vois toujours Metz Pôle Service. Et donc, je me dis, parce que je me posais les mêmes questions que vous posez, est-ce que ça aboutit à quelque chose? Est-ce que, finalement, ce n'est pas du personnel qui est payé au petit rabais avec de l'argent de l'État, etc. Qu'est-ce que ça vaut? Et puis, je me renseigne, parce que j'ai mon épouse qui est tous les deux jours dans le quartier du chemin de la Moselle, qui me dit que grâce à ça, le quartier est propre, parce que sinon, il y a des gens qui jettent par la fenêtre. C'est compliqué. Et quelque part, c'est le mythe de Sisyphe. On monte le rocher et il redescend tout le temps. Alors, moi, j'ai regardé les chiffres, parce que je vous écoutais, c'était long. Hein, j'ai regardé les chiffres et je m'aperçois que il y a, pour l'essentiel, c'est Metz Pôle Service, 187 000 et 156 000. Vous avez vu le paquet que ça représente? Et ça, c'est ce dont je viens de parler. C'est-à-dire quelque chose où, depuis le début, je me pose des questions, parce que normalement, les gens n'ont pas à salir leur environnement, et normalement, ça pourrait être une charge de Metz Habitat Territoire, puisque c'est autour, etc. Il y a tout un tas de débats à avoir là-dessus. Il n'empêche que ça rend service à des gens, parce que c'est des gens qui n'ont pas de boulot et que pour eux, c'est une espèce de planche de salut, une petite opération qui leur permet d'avoir été dans le circuit. Donc, je ne crache pas dans la soupe. Je rends hommage à ceux qui ont inventé ça, parce que ce n'est pas moi. Je continue. Et vous avez parlé tout à l'heure d'humilité. J'ai exactement la même humilité par rapport au contrat de ville, parce que c'est un peu partout, c'est un peu des opérations qui calment le jeu, qui rendent possible la vie dans certains tel et tel quartier, et quelque part c'est déjà pas mal compte tenu de ce qu'on peut voir et entendre ailleurs. Je donne la parole à Mme Saadi, mais je m'excusez moi de cette philosophie autour, mais c'est bien comme ça que ça se passe.
Juste pour Mme Saadi, je veux surtout compléter que c'est 60% de retour à l'emploi de gens, des fois, qui sont très, très éloignés. Donc, c'est un très bon chiffre, parce que ça va au-delà de ça. C'est aussi... Et j'ai beaucoup écouté l'année dernière sur ce débat, sur l'évaluation, et on y travaille à mi-mandat du contrat de ville. Il y aura une évaluation du contrat de ville. J'essaye de vous donner dans les groupes le maximum d'informations quand je les ai, et je suis très vigilante sur ce point. Déjà, je voulais remercier déjà Mme Grollet pour l'assiduité qu'elle a à venir en commission. Et elle comprend maintenant la construction d'un contrat de ville, ce qui n'est pas le cas d'autres. D'autres personnes, je ne choisis pas toute seule les subventions politiques de la ville. Heureusement, on a un conseil municipal, on a des commissions, mais surtout, on a une conférence de financiers où il y a plus de 30 personnes autour de la table, et c'est la première année où on passe aussitôt. Donc c'est aussi ça un effet de la loi LAMI. La loi LAMI qui nous oblige aussi à cette fameuse évaluation. Oui, Madame Grollet, c'est parce qu'il y a des difficultés qu'il faut toujours agir par rapport aux femmes, aux nouveaux arrivants. Je le répète assez souvent, hein, sur la politique de la ville dans les quartiers, généralement, c'est à peu près 30% des gens qui quittent régulièrement le quartier. Je viens de voir les chiffres de starter vers l'emploi. Ceux qui nous arrivent, c'est des gens, c'est vraiment des nouveaux arrivants dans les quartiers, hein, qui arrivent, et c'est plus de 50% de ces dispositifs. Donc souvent, ces dispositifs sont pour les nouveaux arrivants, quelle que soit leur origine. Et moi, aujourd'hui, je suis fière d'être dans cette assemblée et de me dire binationale. Ça peut gêner à gauche comme à droite, mais moi, je suis fière de ça parce que la seule chose pour laquelle je travaille, c'est la République. Donc, j'ai la même priorité que vous, c'est l'intégration. Elle est partagée avec vous, avec le respect des identités de chacun. Donc, sans aucun reniement. Je veux juste dire à Mme Singère que faire des formules, c'est très, très simple. C'est très, très simple, et sur la politique de la ville, il faut être très humble. Et ça, je le reconnais. Sur la répartition des thèmes, on évolue de plus en plus. Et nous, on essaye vraiment de travailler de plus en transversalité, en transversal jeunesse, culture et sport. On parle du projet Demos, on parle de l'école des sports qui vont passer, et puis avec le sport, avec vraiment un vrai pôle d'athlétisme qui pourra se créer aussi en lien avec le quartier de Borny. On a parlé beaucoup de la Cour des comptes. Je suis d'accord avec vous, l'évaluation de la Cour des comptes est à moitié sévère, parce qu'elle dit aussi, la Cour des comptes dit aussi que c'est aussi dans les quartiers politiques de la ville, on l'oublie, que le droit commun arrive le moins par habitant. Ça, on l'oublie souvent de lire. Moi, je dirais simplement, si on ne mettait pas ces moyens, qu'est-ce qui arriverait dans ces quartiers? aujourd'hui, si on met pas ces moyens, qu'est-ce qui arriverait dans ces quartiers? Et moi, je suis vraiment heureuse de porter la politique de la ville, heureuse de voir toutes les énergies positives qu'il y a dans ces quartiers. On a vu avec Thomas Scudéry la démocratie participative, les jeunes de quartier, que ce soit à Borny, à Metz-Nord, les conseils citoyens, où c'est vraiment des personnes qui sont éloignées de la décision publique, qu'on essaye de faire venir sur ce milieu. Oui, il y a toujours à améliorer, il y a toujours à faire des choses dans le respect des habitants et dans le respect de chacun.
Merci. Un mot encore sur l'Agora. Il y a une question sur l'Agora. Effectivement, on a eu des difficultés avec le bureau d'études qui était chargé de ça. Et on a un projet de redémarrage, c'est ça, c'est le 23 mars, c'est ça? Combien?
Oui, le chantier va redémarrer le 23 mars.
Voilà. Voilà l'information qu'on pouvait donner. Interservices migrants, ben on laisse... On va travailler avec le successeur que voulez-vous que je vous dise. Hein. On n'est pas chargé de gérer toutes les associations en détail. Voilà. Alors, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des explications de vote? Alors, il y en a plusieurs. Alors, Madame Zimmermann, pour le...
Oui.
A une explication de vote pour le groupe centré.
Oui, allez-y, oui, madame. Oui. Oui, monsieur le maire, bien entendu, on votera. Et ce que je voudrais vous demander simplement, monsieur le maire, c'est qu'on ait un rapport régulier sur la politique de la sécurité. Et je pense que c'est tout simplement parce que c'est lié, c'est-à-dire sur la mission qu'on avait démarrée. Et c'est normal qu'on demande régulièrement un point d'étape. Et d'autre part, je voudrais savoir, Madame Saadi, quand vous évoquez la présence en commission, je ne sais pas qui, je ne sais plus qui est de mon groupe, mais... Vous savez que si vous souhaitez que je vienne, même en dehors du groupe, pour en parler, je suis prête à me déplacer parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important de travailler sur les contrats de ville. Et je vous remercie, monsieur le maire, pour les réponses que vous avez apportées, qui étaient des réponses de quelqu'un d'expérimenté. Merci.
Vous serez invitée, madame, à cette commission. Alors, explication de vote de monsieur Thierry Jean.
Oui, monsieur le maire. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire. On a comparé les quartiers nord de Marseille aux périphéries de Metz. Ce n'est pas sérieux, je tenais à le dire. Par ailleurs, vous avez évoqué Metz Pôle Service, que nous connaissons bien, puisque Isabelle en était la première trésorière, j'en étais le premier président. Hein, on a conduit cette affaire-là, on a été fort critiqué, mais Metz Pôle Service donne raison à Descartes. Alors Descartes ne l'a peut-être pas dit à propos de la politique de la ville, mais Descartes a dit « ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent ». Voilà, donc c'est dans le discours de la méthode et je pense que il faut que tous les gens qui ont l'honnêteté intellectuelle de mesurer ce qu'était Borny il y a 20 ans et ce qu'est Borny aujourd'hui, vote ce point au-delà de tous les débats, de toutes les polémiques et de toutes les postures. Donc, mon explication de vote, je voterai pour ce point.
Merci. Alors, explication de vote. Alors, c'est pas le même vote que madame... Non, explication de vote, c'est explication de vote. Monsieur Singer. Madame Singer, pardon. Madame Singer, je vous en prie. Excusez-moi, madame.
Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Alors, je remarque que vous ne souhaitez pas répondre à ma question une nouvelle fois, c'est dommage. Alors juste pour rappeler une petite chose, je ne faisais pas du tout de comparaison avec les quartiers nord de Marseille. Nous en sommes bien différents. Cela dit, tout de même, j'aurais souhaité avoir sur ce point tout de même votre avis, parce que d'abord d'une, vous êtes le premier magistrat de cette ville, que le contrat de ville finalement, il est aussi dirigé avec votre politique, et que ça aurait été tout de même intéressant de savoir si vous aussi, vous pensiez qu'avec la politique de la ville, nous achetions la paix sociale. Voilà, je vous remercie.
Merci. Et vous votez quoi, madame, parce qu'une explication de vote?
Je vote pour.
Ah, ben voilà. Encore faut-il le dire.
On est rassurés.
Madame Grelet, vous pouvez expliquer votre vote.
Oui, sur la question de la sécurité qui a largement pris le pas sur celle du contrat de ville, je dirais juste que ce que 5 ans avait défait, 5 ans pouvait le refaire. Ça n'a pas été fait et je comprends que vous soyez les uns et les autres très humbles sur ce sujet. Et on peut espérer en effet une réponse plus intelligente, voire très intelligente pour la suite, comme cela a été dit. Pour en revenir au contrat de ville, je ne voudrais pas oublier l'association qui veut produire du vin à la Patrotte. Ce qui est bien sympathique, mais c'est peut-être un effet d'aubaine, puisque beaucoup de jardiniers aimeraient bien être ainsi subventionnés. Et si je la cite, c'est parce que elle évoque un point que j'ai soulevé. J'ai 2 minutes 11 pour parler, monsieur le président du groupe socialiste.
Allez-y, madame, vous avez la parole.
Donc, mention sociale spéciale pour cette association qui illustre le problème que j'évoquais de du communautarisme, parce que face aux critères promouvoir les enjeux de citoyenneté et de laïcité, elle est obligée en quelque sorte de s'excuser. Je la cite, « La vigne permet de produire du vin, mais aussi du raisin, comme fruit de consommation. Chacun doit accepter ses différences. » Voilà. C'était peut-être un petit détail, mais qui montre que finalement, on n'est pas tout à fait libre de promouvoir ce qu'on veut aujourd'hui chez nous. Et il y a une question sur laquelle je n'ai pas obtenu de réponse, monsieur le maire, et qui pour nous est déterminante, c'est la politisation de certaines associations. Donc je vais citer intégralement Bouche à oreille qui, dans sa fiche projet, nous dit que sur l'objectif valorisation de la diversité culturelle, cet objectif est dans le contexte actuel très malmené du point de vue politique et dans l'opinion publique. Notre volonté de valorisation de la diversité a donc un caractère quasi militant sur le plan artistique et humain qui cohabite avec d'autres formes de lutte, etc. On constate à quel point les impacts de nos actions peuvent être balayés d'un jour à l'autre par l'actualité, les flux changeants de l'opinion. Donc une association subventionnée qui donc utilise les cultures d'origine pour en quelque sorte formater, j'estime que c'est le cas, les personnes, et tenir un discours plus que militant, donc politique, c'est tout à fait inacceptable. Donc nous voterons contre ce rapport dans l'ensemble, bien qu'il y ait des choses
merci.
À encourager.
L'explication de vote a été donnée, merci madame. Monsieur Cazin pour une explication de vote.
Oui, je vais voter pour parce que je suis pour.
Merci monsieur Cazin. Alors donc on met aux voix, qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, c'est adopté avec 4 voix contre. Je vous remercie.